Ce message est une sorte d'explication sur Noël et l'histoire. Et donc, j'aimerais le garder en film. Je rajouterai au montage des illustrations, etc., pour que ce soit plus intéressant. Donc là, vous ne les aurez pas. Sera moins intéressant. Oui, ou tu pourras l'éteindre toi-même après. Ah oui, d'accord. Oui, ça fait joli l'image comme ça. Alors, tous les quelques en France, nous avons droit à un livre, à un reportage. Tu es sûr que ça enregistre? C'est rouge? Il y a le bouton. Ah, d'accord. Ah, d'accord, voilà. C'est bien. Donc, tous les quelques, nous avons le droit en France à un livre, un reportage, une émission de radio, de télévision qui nous parle de la Bible, de Jésus-Christ. Et en cette saison de Noël, on a eu droit, bien sûr, à une émission avec des pseudo-historiens ou théologiens qui font part du scepticisme concernant l'histoire de la naissance de Jésus. Ce scepticisme, il date du 19e siècle, parce qu'avant le 19e siècle, la plupart des gens acceptaient la naissance de Jésus et tout le récit comme étant vrai, véritable et historique. Mais depuis, beaucoup pensent que la naissance de Jésus est un mythe. J'ai entendu et j'ai lu, entre autres, je vous dis quelques citations, Jésus n'a jamais existé, il est un personnage mythologique. Jésus n'est pas né à Bethléem. Jésus n'est pas né non plus à Nazareth, parce que Nazareth n'existait pas au temps de Jésus. L'histoire du recensement dans Luc est une fable, est une erreur historique. Les mages sont bien sûr une légende et la virginité de Marie est un conte pour les enfants, mais n'est pas une réalité. La thèse principale des sceptiques, c'est que Jésus, s'il a existé, était un obscur personnage juif, que l'Église, plus tard, a monté en épingle pour en faire un Dieu, un surhomme, un homme de miracle, fils de Dieu, grâce à l'ignorance des peuples de l'époque. Quand on regarde les évangiles et quand on regarde l'histoire et l'archéologie, cette thèse ne tient pas très longtemps. D'abord, l'Église, en tant qu'organisation internationale, n'a vraiment commencé qu'en 300 et quelques. Donc pendant les 3 premiers siècles de son existence, l'Église n'était pas l'Église comme on l'imagine aujourd'hui. L'Église, c'était des églises qui, la plupart du temps, étaient pauvres et persécutées. Les chrétiens étaient pourchassés, mis à mort par les différents empereurs romains. On a compté 7 vagues de plusieurs années de persécution dans ces 3 premiers siècles. Et donc cette Église n'a rien pu inventer. Surtout que les écrits que l'on a, les évangiles, sont très proches de la mort de Jésus-Christ, hein, en point de vue date. Donc il ne s'est pas passé des siècles entre les événements et les premiers écrits des évangiles. Il s'est passé peu de temps et les témoins oculaires étaient encore vivants et ils auraient pu dire, mais non, ce que vous dites est une invention. Alors, j'aimerais, dans ce message, prendre quelques éléments sur la naissance de Jésus. Et voir si ces faits sont probables, sont véritables, sont possibles, ou est-ce que c'est complètement légendaire. Le premier point qui me paraît important, c'est la date de la naissance de Jésus. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jésus est vraiment né un 25 décembre? Alors, Là, tout le monde est d'accord que non. En tout cas, il y a peu de chances qu'il soit né le 25 décembre parce que cette date a été fixée par un pape en 306 après Jésus-Christ. C'est le pape Jules Ier. Il vivait à l'époque de l'empereur Constantin, le premier empereur à devenir chrétien, en tout cas à renoncer à son paganisme. Et pourquoi il a mis Noël le 25 décembre ? Pour plusieurs raisons. C'est qu'à son époque, on fêtait Noël un peu à toutes les dates. Chaque région avait sa fête de la nativité, sa fête de la naissance de Jésus. Décembre, mars, juin, juillet. Et le pape s'est dit, maintenant que l'Église est unie sous l'empereur Constantin, nous allons unifier la date de Noël. Il a fallu donc choisir une date. Et comme le 25 décembre, c'est une date symbolique, en tout cas ces jours-ci, autour du 25 décembre, c'est lorsque les jours recommencent à devenir plus longs. Le soleil reprend de la force, si on peut dire, à partir du 21-22 décembre. Et nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 78, que Jésus, le Messie, est appelé le soleil levant. Alors, il a eu l'idée, il a dit, voilà un beau symbole. Jésus étant le soleil levant, on va mettre la fête de sa naissance le 25 décembre. Il y avait une autre raison, c'est que le 25 décembre, il y avait une fête païenne qu'on appelait les Saturnales, qui était l'occasion de différentes célébrations, des fêtes, on se faisait des cadeaux, on libérait des esclaves, on buvait beaucoup, etc. Et le pape s'est dit, on va remplacer les fêtes païennes par des fêtes chrétiennes. Et il s'est dit, on va remplacer les Saturnales par Noël. Et voilà donc comment Noël est devenu le 25 décembre, mais la Bible ne dit nulle part à quelle date Jésus est né. Est-ce que Jésus est né en l'an 0 de notre ère ? Nous sommes en 2011 après Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est né il y a 2011 ans ? Probablement pas. Comment calculait-on les dates ? Vous savez que ce n'est pas si vieux que ça d'avoir les années comme ça depuis Jésus-Christ. C'est à peu près depuis Charlemagne que l'on compte depuis la naissance de Jésus-Christ. Avant cela, on ne comptait pas vraiment de façon claire. On avait l'année du calendrier julien, du 1er janvier au 31 décembre, mais sinon, on ne se repérait pas bien dans les siècles. Par contre, avant Jésus-Christ et au temps de Jésus-Christ, on avait un repère, c'était la fondation de Rome. C'est comme ça qu'on datait tous les règnes des empereurs. Ce qu'on appelle l'anno urbis en latin, la fondation de Rome, et c'était 754 ans avant Jésus-Christ. Donc, quand un empereur apparaissait ou régnait, on comptait son règne en anno urbis. Voilà, quelle année après la fondation de Rome son règne a-t-il commencé ? Si on disait 35, ça voulait dire qu'il avait commencé son règne 35 ans après la fondation de Rome. Voilà comment on comptait au temps de Jésus. Mais c'est un moine qui vivait à Rome au VIe siècle, qui s'appelle Denis le Petit, qui a créé et a calculé une chronologie autour de Jésus-Christ. Comme il était moine, il voulait qu'on compte par rapport à Jésus-Christ. Et sa chronologie a eu un immense succès, tellement qu'elle a effacé tous les autres savants qui avaient écrit une chronologie du monde, de l'humanité, et on a gardé la chronologie de Denis le Petit. Et sa chronologie, elle commençait en année zéro. Or, son calcul n'était pas du tout scientifique, et il y avait un manque d'informations, des erreurs, ce n'était pas un historien. Et donc, il a introduit une erreur dans notre calcul, dans notre chronologie. Jésus n'est pas né en l'an zéro. Comment le sait-on ? On le sait par rapport à un point clé. Vous savez, dans les chronologies, il faut toujours un repère clé. Le repère clé, on le trouve en Matthieu, chapitre 2, verset 15. Je vous le lis. Joseph resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » On voit que Jésus était né peu de temps avant la mort d'Hérode. Hérode le Grand, le fameux Hérode le Grand. Donc, c'est un repère chronologique. Si on sait quand est mort Hérode, on peut savoir à peu près quand est né Jésus. Jésus est probablement né 1 ou 2 ans avant la mort d'Hérode, si on se base sur ce qui se passe. Vous vous rappelez certainement le massacre des innocents à Bethléem. Hérode a dit, hein, vous allez faire tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous. Ça voulait dire que quand le massacre a eu lieu, Jésus avait environ 2 ans déjà. Ça faisait 2 ans qu'il était né. Et donc, peu de temps après, Hérode décède lorsqu'il revient d'Égypte. Donc, Jésus est né au moins ou autour de 2 ans avant la mort d'Hérode. Le problème, c'est que la mort d'Hérode n'est pas facilement déterminée. Il y a controverse. Il y a 2 dates qui sont données par les historiens. Il y a 4 avant Jésus-Christ et il y a 1 avant Jésus-Christ. La source principale sur la mort d'Hérode, on la trouve dans les écrits de l'historien juif Flavius Joseph. Il raconte que peu avant la mort d'Hérode, il y a eu une éclipse de lune à l'époque de Pâques. Alors les astronomes ont regardé quand est-ce que les éclipses de lune à l'époque de Pâques ont eu lieu. Et on en trouve effectivement une en 4 avant Jésus-Christ et une en 1 avant Jésus-Christ. Donc ça ne suffit pas à déterminer laquelle des deux est la bonne. Par contre, ce qu'on sait avec certitude par Joseph, c'est que quand Hérode est mort, il a fait un testament juste avant de mourir. D'ailleurs, il y a un fait tout à fait troublant et qui révèle la personnalité d'Hérode, c'est qu'il était vraiment mourant pendant des semaines et des semaines. Il avait des problèmes de reins et d'estomac terribles. Il est mort comme son fils, d'ailleurs plus tard Antipas, rongé des vers. Vous savez cette expression de la Bible, c'est-à-dire que son estomac et son bas-ventre étaient gangrénés. Et donc, il a souffert longtemps et à un moment, quelqu'un a cru qu'il était mort et il a fait cette annonce. Et immédiatement, son fils, Hérode Antipater, est arrivé et il a dit, « Maintenant, c'est moi qui vais succéder à Hérode. » Hérode a entendu que son parent se réclamait son successeur et il a ordonné qu'on le fasse exécuter. Donc, juste avant de mourir, il a fait exécuter son fils. Parce que celui-ci voulait prendre sa place alors qu'il était mourant. Il a eu le temps de faire son testament et il a partagé son territoire en Judée en 3 fils. Mais donc, on sait quand les 3 fils ont commencé à régner parce qu'ils ont fait battre monnaie à leur effigie et on sait que c'est en -4. Donc il y a beaucoup de chances que Hérode soit vraiment né en -4. Soit vraiment mort en -4. Donc Jésus serait né en -6 environ, 6 avant lui-même, 6 avant Jésus-Christ. Ce qui fait que nous ne sommes pas en 2011 après Jésus-Christ, mais nous sommes environ en 2017 après Jésus-Christ. Ce qui fait que l'an 2000 n'était pas l'an 2000 et 2012 n'est pas forcément 2012. Vous comprenez tout ce que ça peut modifier dans les calculs des hommes. Ça n'a pas beaucoup, franchement, d'importance pour la foi, évidemment. Mais pour les historiens, c'est la source de querelles infinies. Mais simplement, la Bible nous précise que Jésus est né lors d'un recensement fait par l'empereur Auguste lorsque Quirinus était gouverneur. Alors, on trouve cela dans l'évangile de Luc. Nos 2 sources bibliques sur la naissance de Jésus sont Matthieu et Luc. Marc et Jean ne parlent pas de la naissance de Jésus. Ils parlent d'autres sujets, mais pas de sa naissance. Les 4 évangiles décrivent en détail la mort et la résurrection de Jésus, mais seulement 2 parlent de sa naissance. Donc, en Luc 2, verset 1, « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Alors, pendant longtemps, ces versets ont été méprisés parce qu'on a dit, on n'a aucune trace d'un recensement à l'époque de la naissance de Jésus. Quirinus a bien fait un recensement, il était gouverneur en Syrie, mais en plus 6, en 6 après Jésus-Christ. Donc là, il y a une grosse erreur. Et puis, Jésus est appelé partout Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Alors pourquoi serait-il né à Bethléem? Alors les sceptiques disent, en fait, c'est Matthieu ou Luc, surtout, qui a mis la naissance de Jésus à Bethléem pour accomplir la prophétie. Vous savez, la fameuse prophétie du prophète Michée, chapitre 5, verset 1, qui dit « Et toi, Bethléem, de toi viendra celui qui régnera, celui dont les temps remontent à l'éternité. » Donc, il pense que c'est Luc qui a trafiqué les faits pour que ça colle avec une prophétie. Quand vous écoutez les sceptiques et certains historiens dire cela, ça peut, si vous êtes chrétien, ça peut vous mettre un coup parce que vous dites alors, l'évangile de Luc n'est pas digne de foi. La Bible n'est pas digne de foi parce qu'ils s'arrangent avec la vérité. Alors on vous dit, oui, mais à l'époque, tout le monde faisait ça. Aujourd'hui, on aime la vérité, mais à l'époque, chacun faisait un peu ce qui lui semblait bon. Encore vraiment un préjugé. À notre époque, vous croyez qu'on aime plus la vérité qu'avant ? Il faut voir le nombre de mensonges, de complots, de choses colportées qui sont totalement fausses. Et à l'époque, vous croyez qu'ils aimaient moins la vérité qu'aujourd'hui ? On a étudié tout l'évangile de Luc avec l'archéologie et l'histoire. Il y a notamment un certain archéologue anglais, William Ramsay, au 19e siècle. Il a pris l'évangile de Luc et il a parcouru le Moyen-Orient pour vérifier tous les détails de cet évangile. Parce que Luc, il cite beaucoup de noms de rois et de lieux, de choses topographiques. Et vraiment, il donne beaucoup de détails géographiques. Et William Ramsay a conclu, Luc a fait un travail d'historien. Ce n'est pas un historien, il était médecin, mais il a fait un travail d'historien. Donc, si tout l'évangile de Luc est vrai et confirmé, pourquoi aurait-il dit n'importe quoi dans ce chapitre 2? Et donc, les recherches ont continué sur ce fameux recensement et on a découvert à Ankara, en Turquie, un monument qui raconte les œuvres du César Auguste. Et parmi les œuvres du César Auguste, on a découvert qu'il avait ordonné un recensement du monde. Alors le monde à l'époque, ce n'était pas la planète, c'était l'Empire romain et puis les pays limitrophes. Mais il avait ordonné un recensement du monde en l'an 746 de Rome. Comme Rome a été fondée en 754 avant Jésus-Christ, 746, ça fait moins 8. Donc, en 8 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire un ou deux ans avant la naissance de Jésus, un recensement de toute la terre a été ordonné par César Auguste. Or, un recensement, ça ne prenait pas comme aujourd'hui, je ne sais pas combien ça prend aujourd'hui en France, mais ça prend quelques mois, voilà, plus, 5 mois, 5 ans. D'accord, pour un recensement complet aujourd'hui, il faut 5 ans. Alors imaginez à l'époque où ce n'était pas la France, c'était l'Empire romain, ils n'avaient pas d'email, de voiture, d'avion, ils étaient à cheval. Il a fallu des années. Et donc c'est très possible que Joseph et Marie soient allés se faire recenser. Mais pourquoi sont-ils allés à Bethléem alors qu'ils n'habitaient pas à Bethléem? Normalement, on se fait recenser chez soi. Mais on a découvert un certain nombre de textes, que ce soit en Égypte ou chez les Romains, qui montrent que le recensement devait se faire dans sa ville d'origine, là où on avait des terres. Parce que le but du recensement, c'était de voir combien vous aviez de richesses et de terres. Et on vous taxait sur vos terres et sur vos maisons. Et donc, Luc dit que Joseph était descendant de David. Quand vous lisez les généalogies, notamment la généalogie de Jésus en Luc, vous découvrez qu'il est descendant de David par Joseph. Et Matthieu, hein, pareil. Et donc, étant descendant de David, Joseph est allé dans sa ville familiale, la ville de David, qui s'appelle Bethléem. Pourquoi c'est la ville de David, Bethléem? Parce que c'est là, eh bien, qu'il a commencé son règne, hein, et c'est là qu'il a, il s'est épanoui. Ensuite, il est allé à Jérusalem, il a régné à Jérusalem, mais Bethléem est lié, il est né là, Isaïe était de Bethléem, et le père de David, et toute cette famille était bethléemite. Et donc, Joseph est allé se faire recenser dans la ville de sa famille. Un petit peu comme si moi, j'allais me faire recenser dans le village de mon père, hein, en Corse, à Pilacanal, parce que c'est là que nous avons un peu de terre et un peu de bien, et parce que c'est là que la famille Bodz est originaire. J'habite à Montrouge, mais c'est à Pilacanal qu'est la source de ma famille, et à Ajaccio. Eh bien, c'est ce qu'a fait Joseph avec Marie, qui était son épouse à ce moment-là. On découvre que dans le texte, quand il est dit que Quirinus était gouverneur de Syrie, ce n'est pas ce que dit le texte grec exactement. Le texte grec dit que Quirinus gouvernait en Syrie, ce qui est assez différent. On a découvert effectivement que Quirinus était en Syrie avant Jésus-Christ, autour de la naissance de Jésus, et qu'il était responsable militaire, il était le légat militaire en Syrie, et c'est l'historien Tacite qui nous l'apprend lorsqu'il parle de Quirinus dans ses annales. Donc, le recensement et la naissance à Bethléem sont tout à fait plausibles et, pour moi, évidemment, sont tout à fait vrais et elles correspondent à tout le reste du récit, à tout le reste de la Bible, et surtout à cette prophétie, effectivement, du prophète Michée, 400 ans avant Jésus-Christ. Une autre question que l'on se pose au sujet de Jésus-Christ, c'est l'histoire des mages. C'est Matthieu qui nous parle de ces fameux mages d'Orient. Il dit qu'ils ont vu son étoile en Orient, et qu'ils sont allés marcher jusqu'à Jérusalem. Arrivés à Jérusalem, ils vont voir le roi, Hérode, justement, et ils disent, nous avons vu l'étoile du Messie, dites-nous où il est. Alors Hérode n'a aucune idée qu'il y a un Messie qui vient de naître, et il fait appeler les rabbins, et les rabbins disent, mais selon la prophétie de Michée, il doit naître à Bethléem. Alors, les mages se mettent en route vers Bethléem, qui n'est pas très loin de Jérusalem. Et là, l'étoile réapparaît, mais cette fois-ci, elle est conduite au-dessus, justement, jusqu'à la maison même où Jésus se trouve. Donc, on découvre que Jésus, à ce moment-là, n'est plus dans une étable, mais qu'il est dans une maison à Bethléem. Et donc, on n'est plus au jour de la naissance. Ils arrivent beaucoup plus tard, probablement 2 ans après. Mais est-ce que cette histoire est complètement légendaire ? On sait qu'à cette époque-là, il y avait effectivement beaucoup de mages babyloniens. Babylone existait encore, c'est cette ville qu'on trouve en Irak aujourd'hui. Hein, l'Irak n'existait pas, c'était encore la Babylonie et toutes ces régions. Et les mages d'Orient, c'était des astrologues des rois qui consultaient les astres, mais de façon très scientifique en fait. Ils étaient astronomes et astrologues en même temps. Ils consultaient les astres, ils connaissaient les astres et ils tiraient des astres, des présages pour les rois. On a retrouvé dans des fouilles de Babylone des almanachs des étoiles. Un almanach d'étoiles, c'est qui vous dit, voilà, telle année, il va y avoir telle éclipse à telle date, telle éclipse à telle date, telle conjonction dans telle constellation à telle date. Vraiment, vous lisez ça, vous dites, c'est pas possible. Ils avaient un observatoire, ils avaient un télescope. Comment faisaient-ils ? Ils avaient une connaissance des étoiles extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé un almanach de l'année moins 7, qui serait probablement la naissance de Jésus. en quatre exemplaires. Donc, déjà d'en trouver un, parce que c'est sur une tablette, hein, ce n'est pas un livre. Hein. De cette époque-là, quelques années avant Jésus-Christ, en quatre exemplaires, c'est exceptionnel. Et pourquoi c'est exceptionnel? Parce qu'il y a eu une conjonction cette année-là, extraordinaire. La fameuse conjonction qu'on appelle de Kepler, parce que Johannes Kepler est celui qui l'a découverte, c'était un astronome. C'est la conjonction qui a lieu tous les 800 ans entre Jupiter, Saturne et Mars. Et là, elles étaient dans la constellation du Poisson. Quand ces trois planètes se mettent ensemble, il faut savoir que Jupiter et Saturne sont parmi les plus grandes planètes de notre système solaire, sont énormes. Quand elles se mettent en conjonction, ça fait une lumière très, très visible. Et surtout quand Mars vient s'ajouter, alors là, vous avez une triple conjonction qui est très rare. Or, cette conjonction est écrite dans cet almanach. Pour les mages, elle avait certainement une valeur symbolique. Elle allait annoncer quelque chose. Sinon, il y avait d'autres candidats à une étoile, à un phénomène astrologique, ou astronomique plutôt, pardon. Il y a eu une explosion d'étoiles, une supernova, en 5 avant Jésus-Christ. Ce sont les agendas, les almanachs chinois qui nous le révèlent, qu'il y a eu une immense lumière dans le ciel pendant plusieurs jours, l'explosion d'une étoile. Mais ça ne colle pas parce que l'explosion d'une étoile reste fixe dans le ciel, alors qu'une conjonction, elle va bouger au fil des mois, hein, comme le ciel bouge constamment. La comète de Halley, notre fameuse comète, je ne sais pas si vous l'avez vue quand elle est passée la dernière fois, eh bien, elle est passée entre août et octobre de 12 avant Jésus-Christ, mais c'est beaucoup trop tôt pour la naissance de Jésus. Hein. Ça fait 6 ans avant la naissance de Jésus, ou 5 ans, ça fait beaucoup trop. Donc, cette conjonction dont je vous ai parlé, qui a duré 11 mois, quasiment un an, dans la constellation du Poisson, serait un bon candidat pour les mages. Pour les Babyloniens, Jupiter, c'était l'étoile du dieu créateur, Marduk pour eux. Hein. Mais en fait, si on enlève le nom Marduk, c'est l'étoile de Dieu. Saturne, c'était la planète du roi. Donc Jupiter, Saturne, et puis Mars. Mars, c'était la planète qui indiquait l'ouest. Et enfin, dans la constellation du Poisson symbolisait un grand changement, un grand bouleversement, en bien ou en mal. Et donc, quand ils ont vu cette conjonction de l'étoile du dieu qui se mettait avec l'étoile du roi, ajouter l'étoile de l'ouest, hein, Mars, dans la constellation du changement du Poisson, ils ont pu interpréter tout cela en disant « il va y avoir bien cette année où quelque chose, un roi va apparaître, va provoquer un immense changement sur la terre. Et ce roi vient de l'ouest. Or, pour les Babyloniens, l'ouest, c'était Israël. Hein, la Syrie et Israël. Surtout que Suétone, l'auteur latin, nous apprend qu'on attendait un sauveur à cette époque-là. Il y avait vraiment une forte attente chez les Juifs et même quelquefois au-delà des Juifs. Il raconte dans la vie des Césars, « De temps immémorial, il régnait dans tout l'Orient une vieille tradition. Les destins avaient prédit que ceux qui viendraient de la Judée, à cette époque-là, seraient les maîtres du monde. » Donc, les peuples non-juifs attendaient qu'un jour les Juifs deviennent les maîtres du monde. Ils ne savaient pas pourquoi, mais ils avaient cette idée. Et puis, les mages, s'ils venaient de Babylone, ils ne pouvaient pas manquer de connaître un autre mage, celui de l'Ancien Testament, qui s'appelait Daniel. Daniel, si vous connaissez le livre de ce prophète, a été emmené en captivité par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, et il est devenu un des sages. Un des conseillers du roi. Or, la plupart des conseillers du roi étaient des astrologues. Il y avait aussi des magiciens qui faisaient toutes sortes de salamalek. Hein. Mais bien sûr, Daniel n'était ni astrologue ni magicien. Lui, il consultait un seul être, son Dieu. Et un jour, Nebuchadnezzar a eu un rêve et il a demandé qu'on lui révèle son rêve, parce qu'il ne se souvenait plus de ce qu'il avait rêvé. Il a fait venir tous ses sages, tous ses mages, il a dit, « Dites-moi quel est mon rêve. » Alors les mages ont dit, « Très bien, on va te dire ce que c'est, mais dis-nous d'abord ce que tu as vu. » Mais je ne m'en souviens plus. Je compte sur vous pour me dire ce que j'ai rêvé. Mais tu demandes là une chose impossible. Personne n'a demandé une chose pareille. Il a dit, d'accord, je vais donc tous vous faire tuer si dans quelques jours vous ne me donnez pas le contenu de mon rêve. Alors là, grande frayeur parmi les sages. Et comme il y avait Daniel et des amis juifs qui en faisaient partie, ils ont prié Dieu, ils ont dit, Seigneur, il va nous tuer tous. Épargne notre vie. Révèle-moi, révèle-nous ce qu'il a rêvé. Et en fait, ce rêve venait de Dieu et Daniel va lui révéler et lui donner même l'explication du rêve et il va être élevé dans le royaume de Babylonie. Mais donc, le livre de Daniel devait être connu des mages babyloniens depuis très longtemps parce que même dans le prophète Daniel, il y a des passages dans la langue babylonienne, en araméen, mélange d'hébreu et de babylonien. Et donc, il devait pouvoir lire ce livre. Un des versets de Daniel, c'est qu'il annonce qu'un jour, un fils de l'homme descendrait du ciel et régnerait sur la terre. Et probablement qu'ils attendaient ce fils de l'homme qui descendrait du ciel. L'histoire des mages n'est donc pas du tout fantaisiste ou légendaire. Surtout que quand vous lisez le récit de Matthieu et de Luc, les choses ne sont pas linéaires et faciles. Quand vous inventez une histoire, tout tombe merveilleusement bien, tout est parfait. Mais quand la réalité est en place, il y a des obstacles, il y a des problèmes. Les mages ne vont pas directement à Bethléem. Eux, ils se dirigent vers la capitale parce qu'ils savent qu'il y a un Messie qui vient de naître, le roi des Juifs, mais ils ne savent pas où il est né. Si on avait inventé cette histoire, je pense qu'on aurait dit tout de suite, Dieu leur a révélé que c'était dans cette maison à Bethléem. Mais non, ils vont à Jérusalem et ils disent là, où est-ce qu'il doit naître? Et là, Hérode les regarde et dit, mais j'ai aucune idée, moi, où il doit naître le Messie. Ça sent la réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on va inventer. Quand on invente, tout tombe parfaitement à pic. Le fait que il n'y ait pas de place pour Joseph et Marie dans l'hôtellerie. On se demande de quoi ça parle et pourquoi ils vont dans une étable. On a découvert qu'à cette époque-là, il y avait des auberges qui s'appelaient des cannes. Et ces auberges, c'était pour les commerçants et les bergers. Et c'était un lieu avec des murs fortifiés pour protéger des voleurs et des brigands. Et donc, on entrait avec son troupeau ou avec ses ânes ou ses chameaux hein, dans le khan. Une porte était fermée, il y avait un garde pour la nuit. Et là, il y avait des espaces pour chacun. Il y avait un espace pour les animaux, donc des étables. Et puis, il y avait des espaces pour le voyageur, pour qu'il dorme. Et c'était ça, les hôtels. Aujourd'hui, nos hôtels, il y a le parking pour les voitures. Ben, eux, ils avaient le parking pour les chameaux et les moutons. Et donc, Marie a dû commencer à avoir les douleurs, peut-être qu'elle a perdu les os, et ils n'étaient pas encore vraiment à Bethléem même, et ils ont dû s'arrêter à cette auberge. Et l'aubergiste a dû leur dire, écoutez, c'est complet, je n'ai plus aucune place, tout est pris. Le seul endroit qu'ils ont trouvé pour qu'elle accouche, c'est un lieu qu'ils ont fait dans la paille, là où étaient les animaux. L'hospitalité orientale est proverbiable, hein? Donc ils n'auraient jamais laissé cette femme enceinte sans l'accueillir. Il fallait vraiment que l'auberge soit totalement complète. Et ça colle tout à fait avec l'époque du Moyen-Orient. Ça pouvait arriver qu'on se retrouve à dormir avec les animaux. Les animaux étaient toujours dans les maisons pour la plupart du temps en hiver, parce que surtout ils faisaient de la chaleur. Ça chauffait la maison d'avoir les animaux au rez-de-chaussée et les humains dormaient à l'étage. L'annonce au berger, le fait que des anges se soient manifestés au berger, bien sûr, on n'a pas de photos, on n'a pas de films, on n'a pas de preuves historiques que les anges aient parlé au berger de Bethléem. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des bergers à Bethléem, que c'était même un village de bergers, et que ce village de bergers servait pour approvisionner le temple dans les brebis. Les moutons du temple venaient quasi exclusivement de Bethléem parce que c'était une race à part pour le sacrifice. Et c'est quand même la providence extraordinaire que l'agneau de Dieu, Jésus, soit né dans le village où on donnait les agneaux au temple. Surtout qu'il y avait des prophéties très intéressantes sur Migdal Eder, qui était une tour pour surveiller les troupeaux. En Michée 4, 8, il y a cette phrase, donc prophète Michée. Donc c'est un peu avant la prophétie sur la naissance à Bethléem. Michée 4, 8. Et toi, tour du troupeau, Migdal Eder en hébreu, colline de la fille de Sion, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Et donc, c'est avant la prophétie qui dit « Et toi, Bethléem Ephrata ». Mais la tour du troupeau était à Bethléem, Migdal Eder. Et les targoums juifs, les targoums, c'est les interprétations de la Bible, disaient que le Messie viendrait justement et serait annoncé au Migdal Eder. C'est dans le targoum pseudo-Jonathan, qui est une interprétation de Genèse 35. Si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder avec moi Genèse 35, verset 19. Rachel mourut, elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-dessus de Migdal Eder, la tour du troupeau. Et donc, quand les Juifs interprétaient ce passage, ils disaient « le Messie sera annoncé » parce que c'est là qu'il y a la tombe de Rachel et de Jacob, et c'est là que le Messie sera annoncé à la tour du troupeau. Et peut-être que ces bergers étaient sur la tour du troupeau, en train de surveiller, hein, de dominer la vallée, et que c'est là qu'ils ont reçu l'annonce, le Messie est né à Bethléem, comme la prophétie et comme les Juifs l'attendaient. J'arrive à la fin. J'aimerais dire un petit mot sur l'existence de Nazareth. Je cite un site web qui s'appelle « Le gros mensonge de la Bible ». Déjà, le nom du site est très clair. Voilà ce qu'ils disent. « Le village de Nazareth n'existait pas au temps de Jésus. Son nom vient d'une secte, les Nazoréens, dont le nom a été transformé en Nazaréen, d'où Jésus le Nazaréen. Les croisés ont vainement cherché Nazareth et pour finir, ils l'ont fondé au XIIIe siècle. » On ne peut pas mettre autant d'inepties dans une seule phrase. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont fait fort là. C'est absolument faux du début à la fin. Nazareth existait bien avant Jésus-Christ et on a retrouvé en 2009 les restes archéologiques d'une maison qui a été datée du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, l'époque de Jésus, il y avait déjà des maisons évidemment et des habitants à Nazareth. Donc cette ville existait. Et pourquoi Jésus est appelé le Nazaréen ou celui qui vient de Nazareth? C'est à cause d'une prophétie d'Ésaïe, chapitre 11. Ésaïe 11, verset 1. Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Donc Ésaïe, c'est le père de David, hein. Un rejeton naîtra de ses racines, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On voit bien qu'il s'agit du Messie dans ce passage, et il est appelé un rameau, un rejeton. une petite branche, en hébreu, netzer. Et c'est certainement pour cela que Jésus était appelé le Nazaréen. En fait, ce n'est pas seulement parce qu'il venait de Nazareth, mais il était la branche. Il était le netzer prophétisé par Ésaïe. Mais bien sûr, on voit dans les évangiles que Jésus vivait à Nazareth avec son père qui était charpentier. La virginité de Marie est sujet à de grands débats. Elle est mentionnée dans les évangiles, hein, dans les deux évangiles qui parlent de la naissance, Matthieu et Luc, et elle est racontée de façon toute simple, sans fioritures, sans détails. Nous, on aurait aimé des détails, mais comment, pourquoi ? La Bible est toujours très concise, très, très courte, et c'est une des preuves que la Bible n'est pas une invention des légendes. Les légendes, on en rajoute, hein, on tartine, parce que dans une légende, on veut satisfaire la curiosité humaine. On écrit une légende pour que les gens s'émerveillent, hein, pour que les gens en redemandent. Or, la Bible est trop courte, souvent, dans ses récits. On est frustré, on dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Comment? Pourquoi? Et le fait qu'elle soit trop courte est un signe que c'est vraiment la parole de Dieu, parce que Dieu ne s'intéresse pas aux détails qui attirent notre curiosité, Dieu s'intéresse au fond des choses. Le fond des choses, c'est que Jésus est le Messie promis. La virginité de Marie était annoncée, en tout cas de la mère du Messie, était annoncée en Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Voici, la Vierge sera enceinte. Le Seigneur vous donnera un signe. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, Ésaïe annonce un signe, un miracle. La Vierge va tomber enceinte. Et effectivement, une vierge ne peut pas tomber enceinte puisqu'elle est vierge. Ce signe annoncé dans Ésaïe 700 ans avant Jésus-Christ s'est accompli en la personne de Jésus. Certains disent, oui, mais en hébreu, ce n'est pas vierge qui est écrit. En hébreu, c'est le mot alma qui veut dire jeune fille. Alors tout d'abord, une jeune fille à cette époque-là, c'est-à-dire une jeune fille qui avait 14 ans, c'est ça que ça veut dire jeune fille. Une jeune fille était vierge. Chez les Juifs, on était très strict. Hein? Deuxièmement, quand les Juifs ont traduit l'Ancien Testament en grec, ce qu'on appelle la Septante, ils ont regardé ce verset et qu'est-ce qu'ils ont mis pour traduire Alma ? Ils ont mis Parthénos, qui veut dire en grec vierge. Cette fois-ci, ça ne veut pas dire jeune fille, Parthénos. Ça veut dire vierge. Les Juifs eux-mêmes, avant Jésus-Christ, ont traduit vierge. C'est qu'ils ont bien compris ce verset disant qu'un miracle va se produire, une vierge va tomber enceinte. Les textes racontent que Joseph, voyant qu'elle était enceinte et que ce n'était pas de lui, puisqu'il n'avait jamais couché avec elle, bien qu'il soit fiancé, voyant qu'elle était enceinte, proposa de rompre secrètement. Normalement, selon la loi juive, Marie aurait pu être lapidée. Il aurait pu aller la dénoncer aux autorités et dire, voilà, ma fiancée a couché avec un autre homme, regardez, elle est enceinte, et je jure que je n'ai pas couché avec elle. Ce qui est gracieux et extraordinaire chez Joseph, c'est qu'il veut sauver la vie de Marie. Il dit, écoute, ce qu'on va faire, on rompt tous les deux, on se quitte, tu vas ton chemin, moi je vais le mien, tu te débrouilles, au moins je ne vais pas te dénoncer aux autorités. Voilà ce qu'il avait planifié de faire, Joseph. Donc, Joseph n'était pas quelqu'un de mystique, un peu qui dit « Ah, ma fiancée est enceinte, c'est un miracle du Saint-Esprit !» Non. Il a dit « Ma fiancée est enceinte, ça veut dire qu'elle a couché avec un autre homme. » Pour lui, c'était clair. Et il ne faut pas prendre les gens de cette époque pour des idiots. Ce n'étaient pas des gens avec des grands yeux comme des grands enfants. Ils en avaient dans la tête, hein. Ils avaient beaucoup de bon sens, plus que nous parfois. Ils étaient dans la nature, dans la réalité. Hein. Ils avaient une vie difficile. Il a fallu qu'un ange apparaisse à Joseph et lui dise « Non, elle n'a pas couché avec un autre homme, ça vient de Dieu, prends-la pour ta femme. » Et là, Joseph a accepté de la prendre avec lui. Mais en la prenant avec lui, il supportait une infamie. C'est-à-dire, tout le monde savait qu'ils n'étaient que fiancés, donc ils n'avaient jamais eu de relation ensemble. Et de voir Marie avec son ventre, Ça voulait dire soit tu acceptes une femme qui t'a trompé, soit tu as couché avant la cérémonie du mariage, ce qui était très mal vu à cette époque-là. Dans les deux cas, Joseph et Marie portaient une honte sur eux, alors qu'ils étaient tous les deux des gens pieux, hein, des gens sérieux dans leur foi. Mais s'ils l'ont accepté, c'est parce que Dieu leur a dit. Il fallait que Dieu leur dise, sinon ils n'auraient jamais fait, je peux vous dire, Joseph, il n'aurait jamais pris Marie chez lui. De se marier avec une adultère, c'était porter sa honte avec soi, hein, toute sa vie. Mais alors, il y a, oui, des légendes sur la virginité de Marie. Ces légendes se trouvent dans les livres apocryphes, notamment le fameux Protévangile de Jacques, qui est un livre écrit bien plus tard, et qui raconte l'histoire de la Vierge. Il dit que Marie avait des parents, et que ses parents ont décidé de la mettre dans le temple pour qu'elle soit consacrée à Dieu, et que là, elle a décidé d'être totalement consacrée et de rester vierge jusqu'à la fin de ses jours. Mais finalement, Dieu lui a dit, tu es l'élu, la choisie, tu vas épouser Joseph, et moi je vais te faire tomber enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc, selon ce récit apocryphe, elle épouse Joseph, et là elle tombe enceinte, et il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'elle va accoucher dans une grotte. C'est dans l'évangile protévangile de Jacques qu'il est question d'une grotte. Dans les évangiles, il n'y a pas du tout de grotte. Et là, il y a une sage-femme qui l'aide à accoucher. Ça, ce n'est pas du tout mentionné dans les évangiles. Et il y a Salomé. Salomé serait, selon les apocryphes, la sœur de Marie ou peut-être une parente. Et Salomé est dehors, elle attend l'accouchement. Et puis la sage-femme sort et lui dit « J'ai un grand spectacle à vous raconter. Une vierge a engendré celui que sa nature ne comporte pas. Et cette vierge demeure vierge. » Donc, excusez le français un peu spécial, là. Ça veut dire, non seulement elle était vierge avant, mais elle est restée vierge après. Et Salomé déclare dans ce livre apocryphe, « Le Seigneur, mon Dieu, est vivant. Si je n'examine pas sa nature, je ne croirai pas qu'elle a enfanté. » Et lorsque Salomé eut touché Marie dans le lieu même, elle sortit en disant, « Malheur à moi, impie et perfide, parce que j'ai tenté le Dieu vivant, ma main est brûlante de feu. » Donc, selon ce récit, Salomé aurait vérifié avec ses mains que Marie était toujours vierge après la naissance de Jésus. Ça n'avance rien à l'histoire de Jésus-Christ. C'est même un peu sordide, je trouve, un peu dégoûtant. Et surtout, la Bible ne dit nulle part que Marie est restée vierge. Au contraire, il est dit que Joseph ne connut point sa femme avant la naissance de Jésus. Sous-entendu, il l'a connue après. Et il est parlé des frères et des sœurs de Jésus. Alors, on a beau nous dire les frères, ça veut dire les cousins ou les frères en Christ, on entend toujours cette réponse un peu automatique, hein, pour éviter de réfléchir, mais quand vous lisez le texte, d'abord les sœurs, c'est un autre mot, c'est pas des cousines, et puis ça peut pas être les frères en Christ, parce que justement, ses frères ne croient pas en lui, il dit, vous voulez savoir qui sont mes vrais frères? Ce sont ceux qui croient en moi. Non, Jésus a eu des frères et sœurs, et Marie a eu des enfants. Et il n'y a pas de honte, et ça ne diminue pas la divinité de Jésus ou le fait qu'il soit le Messie. Simplement, lui, il est né miraculeusement d'une vierge. Je terminerai en parlant de ces faux arguments qui disent que Jésus n'est pas le seul à être né d'une vierge, mais que Bouddha est né d'une vierge, Zarathoustra, Mitra, Moïse, et j'en passe, Sargon et d'autres personnages de l'histoire et de la religion sont nés d'une vierge. Hein, y en a qui disent que c'est Dan Brown dans son livre sur le Da Vinci Code qui dit que Mitra, le dieu Mitra, est un dieu païen de l'Antiquité qui est né un 25 décembre d'une vierge. Quand vous lisez ça, vous dites ouf, mais si c'est dans l'Antiquité Mitra, c'est Zarathoustra, c'est un dieu perse, bien avant Jésus-Christ. On se dit, mais alors c'est peut-être qu'on a placé l'histoire de Mitra sur Jésus. Sauf que Mitra, Zarathustra, c'est la même chose, n'est jamais né un 25 décembre ni d'une vierge, et que l'histoire de Mithra a été en fait calquée sur celle de Jésus parce que les Romains ont repris le culte de Mithra après Jésus-Christ, parce que c'était un culte très exotique, hein, ça venait des Perses, on aimait les choses exotiques, un peu comme aujourd'hui on aime le New Age qui nous vient de l'Inde, hein, ou de l'Asie. Et ils ont repris, ils ont inventé de toutes pièces un nouveau culte de Mithra et ils ont effectivement rajouté qu'il est né peut-être un 25 décembre parce que Jésus était déjà né. Et les spécialistes des études mithraïques, ça existe, ont dit toutes ces histoires sur Jésus et Mithra sont totalement fausses. Mithra n'a rien à voir avec Jésus. Bouddha n'est pas né d'une vierge non plus. Bouddha, selon l'histoire légendaire, hein, de sa vie, il s'est incarné dans sa mère, il a été incarné dans sa mère, mais elle n'était pas vierge du tout. Et toutes ces histoires sont là pour discréditer le récit des évangiles, mais en fait, ils sont faux. Alors pour conclure sur ce sujet, tous les éléments historiques et du contexte historique que l'on a sur la naissance de Jésus corroborent ce que Matthieu et Luc disent. En tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin de preuves, nous n'avons pas besoin de confirmations, plus que cela. Mais lorsque on voit ces émissions, lorsqu'on entend ces savants, on ne peut pas s'empêcher d'être ébranlé dans sa foi, de dire « et s'ils avaient raison ?» Et si ce qu'ils disaient était vrai, quand même, ce n'est pas des idiots, c'est des gens qui ont fait des études. Aujourd'hui, ils ont accès à des sources qu'on n'avait pas avant, des sources historiques, archéologiques. Et on ne peut pas s'empêcher d'être ébranlé dans sa foi en écoutant ces choses. Mais quand on cherche plus loin, c'est-à-dire vraiment dans les vrais faits, jusqu'au bout, sans a priori, on trouve que les évangiles sont dignes de foi et que la naissance de Jésus comme sa mort et sa résurrection sont tout à fait vraies. Et que Jésus n'est pas un personnage légendaire, il est un personnage qui est entré dans l'histoire et qui a changé l'histoire du monde. Comme l'attendaient hein, les peuples et les nations de cette époque-là. Ils attendaient le roi qui viendrait de Judée et qui changerait le monde. Et Jésus a fait cela. Ce n'est pas une invention de l'Église qu'il a changé le monde. Il a changé aussi nos vies, nos cœurs, et nous voulons lui rendre gloire. Et remercier le Seigneur d'avoir inspiré et préservé la Bible jusqu'à nous. Et ceux qui s'attaquent à la Bible, hein, eh bien, vont avoir un retour, parce que Dieu répond aussi. Hein. Mais heureusement, Dieu est un Dieu de grâce, et il nous permet aussi, il nous laisse le temps pour chercher, pour réfléchir et découvrir la vérité. Quand on cherche vraiment la vérité, quand on est sincère, quand on ne veut pas croire, on trouve toutes les preuves contraires. Mais quand on est ouvert et sincère, on peut être convaincu par Dieu. Merci de votre attention. Voilà, désolé, c'était un peu long, mais bon, il est 8h35. Si vous avez des questions, je vais sortir du pupitre et on peut se parler comme ça. Ceux qui ont besoin de rentrer chez eux, que le Seigneur vous donne une bonne nuit.